écouter Cédric Desport sur Choc FM.
On a des retours sur Cédric Desport sur Choc FM, la radio 100% Toronto, 100% francophone, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. Ce samedi 4 mai 2024, c'est la Saint-Mois. Allez voir dans le calendrier pourquoi j'appelle ça la Saint-Mois. C'est le prénom que ma maman m'avait donné, mais que très peu de gens connaissent. Bref. On n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de sport. Et cette première partie, on avait parlé de soccer européen, comment le fait les ligues européennes, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, en Espagne, en Italie, un petit peu en Allemagne. C'est ce qu'on fait toutes les semaines. Vous savez, le soccer, c'est le sport le plus pratiqué dans le monde. Ouais. Mais contrairement à beaucoup de gens, ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas le hockey, ce n'est pas les jeux vidéo, c'est le soccer. Parce que c'est tout simplement le sport le plus facile à pratiquer, vous voyez. On n'a pas forcément d'avoir beaucoup d'équipements comme au hockey. On n'a pas forcément d'avoir besoin d'avoir une paire de chaussures qui coûte des centaines de dollars. Ou un ballon, ou un panier avec un filet, comme au basket. Où on n'a pas besoin de grand-chose, on a juste besoin d'un ballon. Hein, moi, je me rappelle, il y a plus d'une trentaine d'années, quand j'étais petit, là, dans la cour d'école, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait tout simplement un ballon avec des... comme ça, fabriquer nous-mêmes, et on mettait deux pierres pour constituer les goals, et c'est comme ça qu'on commençait à jouer. Eh oui, le soccer, c'est vraiment le sport le plus économique au monde, voilà, on peut même l'appeler ainsi. Donc en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous à chaque fois sur les ondes de Choc FM, la radio 100% Toronto, 100% francophone. Dans cette deuxième partie, on va commencer comme ça avec le compte à rebours sur les Jeux Olympiques, comme on le fait depuis plusieurs mois, je vous le dis là. Moi, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'en parle souvent, c'est un rêve de pouvoir y participer. Je ne sais pas si je pourrais le faire, mais en tout cas, on travaille sur une série de podcasts concernant les Jeux Olympiques, comme ça on avait commencé il y a plusieurs mois avec les collègues de Francofoot. On est en train de travailler sur le financement, on a déjà les épisodes qui sont montés, on a une émission pilote, maintenant on cherche à avoir les financements parce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire ce genre de podcast là, parce que c'est pas juste faire de la recherche ou aller parler devant un micro, il faut les choses qui viennent autour de cela, il faut pouvoir essayer de se trouver des annonceurs. En tout cas, on travaille là-dessus. Si il y a des personnes qui seraient intéressées à participer, contactez à ecoprod@outlook.com, et puis voilà, on pourra faire partie de cette aventure-là. En tout cas, on perd pas espoir. On espère qu'on pourra le faire. Sur le compte à rebours en lui-même, on arrive maintenant à moins de 3 mois des Jeux Olympiques. Rappelez que cette compétition-là aura lieu du 26 juillet au 11 août à Paris. Cérémonie d'ouverture sur les quais de la Seine et le Trocadéro. Maintenant, on évoque depuis plusieurs semaines comme ça ici sur Cédric du Sport certaines inquiétudes concernant la sécurité. Oui, j'avais annoncé que par exemple la semaine dernière, il y avait un jeune de 16 ans qui voulait aller se faire, comme on appelle ça dans le langage japonais, harakiri, donc comme un genre de kamikaze, aller se faire exploser tout simplement pendant les Jeux Olympiques. Je sais pas quelles sont les motivations, sont sans doute personnelles, mais bon, c'est pas des choses à faire, hein. Je l'avais dit aussi encore une fois la semaine dernière, dans l'histoire, la mythologie grecque, même lorsqu'il y avait des combats entre les tribus, entre différents groupes, les Jeux Olympiques, c'était l'occasion de faire la pause. Et justement, même si un individu comme le fameux Vladimir Pi voudrait, je ne vais pas prononcer son nom là, pour la sécurité de à moi-même et celle des collègues de Choc FM, veut faire une surprise aux Jeux Olympiques, il ne faudrait pas. Les Jeux Olympiques, c'est le moment de faire la paix. Hein? Même dans les temps les plus sombres de l'histoire du monde, il y avait ce qu'on appelait la trêve olympique qui avait lieu tous les 4 ans. J'espère que les Jeux Olympiques vont bien se passer. Maintenant, sur l'actu olympique elle-même, il y a la mairesse de Paris qui s'appelle Anne Hidalgo qui a annoncé, là ça m'a fait trop rigoler cette histoire-là, qu'elle allait se baigner dans la Seine. Écoutez, si vous avez déjà été à Paris, vous voyez le lac Ontario ici à Toronto, là on retrouve on trouve autre chose, tout sauf des poissons. La Seine c'est pire. La Seine, à ma connaissance, il y a une interdiction de s'y baigner depuis 1923. Donc, bien avant même l'année du déroulement des derniers Jeux Olympiques à Paris qui avait lieu en 1924. Donc, elle dit qu'elle va aller plonger dans la Seine. Je ne sais pas si ce sera Anne Hidalgo ou Anna Hidalgo ou son clone. Mais je ne sais pas si... J'espère pour elle qu'elle va survivre à ça. Parce que la Seine, quand on parle de cours d'eau pollués, la Seine, écoutez là. En tout cas, on verra. On verra. On verra. Toujours est-il que les équipes se préparent, il y a des athlètes qui continuent là. Je vous dis souvent, si vous connaissez une personne ou une équipe qui est en train de se préparer pour les Jeux Olympiques, pour les équipes qui essayent de faire des levées de fonds pour se qualifier pour les JO, faut aller les soutenir. Les Jeux Olympiques, c'est l'aventure d'une vie. Et là, on arrive à moins de 90 jours, là, au moment où cette émission est enregistrée, de Cédric du Sport. Donc oui, on espère pouvoir y assister. En tant que journaliste, là, c'est mort probablement, mais en tant que spectateur, ce serait le rêve d'une vie, quoi. Pour dire un dernier mot sur les Jeux Olympiques, on a annoncé, c'était il y a 2 semaines, la composition de l'équipe américaine pour les Jeux Olympiques. Et là, je vais vous sortir des noms, c'est du très lourd. Allez, rien que les noms, là, pour ceux qui connaissent la NBA, vous allez frémir. Bam Adebayo de Miami, Devin Booker de Phoenix, Steph Curry de Golden State, Anthony Davis de Los Angeles Lakers, Kevin Durant de Phoenix, Anthony Edwards de Minnesota Timberwolves, Joel Embiid, le franco-camerounais américain de Philadelphia Sixers, Tyrese Haliburton de Indiana Pacers, Drew Holiday de Boston Celtics, LeBron James de Los Angeles Lakers, Kawhi Leonard des Los Angeles Clippers et enfin Jason Tatum de Boston Celtics. Ça, c'est une équipe surpuissante. Vous savez, moi, quand j'ai commencé le basket il y a à peu près une trentaine d'années, c'était après avoir vu, bien sûr, Jordan, les Lakers et tout ça au début des années 90. Mais lorsque j'ai vu véritablement l'équipe américaine avec la Dream Team, avec Michael Jordan, Charles Barkley, Magic Johnson, Karl Malone, David Robinson, tous ces joueurs-là, j'étais vraiment conquis. Je me suis dit, ça, c'est un sport pour moi. Et franchement, cette équipe des États-Unis, là, on les appelle les Avengers, quasiment. Vous savez, comme les personnages des dessins animés, du film d'action, là, en tout cas, des bandes dessinées avec beaucoup d'action. Une équipe qui peut vraiment exploser des records, hein, parce que c'est des joueurs, tous ces joueurs-là potentiellement peuvent devenir des légendes dans l'histoire de la NBA, des membres de ce qu'on appelle le Hall of Fame. La chose est que 3 joueurs seulement qui ont une vraie vocation défensive dans cette équipe-là, à savoir Bam Adebayo, Joel Embiid et Drew Holiday et Kawhi Leonard. Donc ça fait 4, disons. Le problème, c'est que Kawhi, depuis le début des playoffs en NBA, beaucoup de blessures. Joel Embiid, beaucoup de blessures. On a même appris qu'il avait une paralysie temporaire du visage, côté gauche. Bam Adebayo, lui, il va sans doute tenir, mais déjà sur la moitié des joueurs défensifs, il y en a qui se blessent souvent. On peut ajouter peut-être Anthony Davis, mais j'ai de vraies inquiétudes sur cette équipe-là. J'ai vraiment de vraies inquiétudes. C'est tant mieux si ces joueurs-là sont là, ça va faire du spectacle, ça va faire comme ça va faire sensation tout simplement quoi. Vous avez l'un des probablement top 5 meilleurs joueurs de l'histoire du basket avec LeBron James qui va être présent. Mais je sais pas. Niveau défensif, j'ai du mal. J'ai du mal. Maintenant, pour voir en détail, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais parmi ces joueurs-là, on note que LeBron James, ce sera sa 4e participation aux Jeux Olympiques, puisqu'il avait déjà gagné l'or 2 fois en 2008 et en 2012. Il avait gagné le bronze en 2004. Bam Adebayo, Booker, Davis, Holiday, Tatum avaient déjà gagné la médaille d'or olympique en 2004. Et enfin, on a Steph Curry qui va faire pour la première fois participation aux Jeux Olympiques. C'est assez étonnant, même s'il avait été déjà 2 fois champion du monde. Et qu'est-ce qu'on va noter d'autre? Parmi le coach, il y aura Steve Kerr des Golden State Warriors, mais qui est vraiment en perte de vitesse là depuis plusieurs années. Mark Few de Gonzaga, l'université de Gonzaga, Tyronn Lue des Clippers et Eric Spoelstra de Miami Heat. À noter encore, et il faut le rappeler, que cette équipe des États-Unis avait fini la 4e place lors de la Coupe du Monde en 2023. Ça avait été d'ailleurs très décevant pour eux d'avoir fini comme ça à cette 4e place. Là, en tout cas, l'équipe des États-Unis de basket, vraiment, c'est du tonnerre. On va aller comme ça sans transition en NBA pour rappeler le plateau actuel, déjà dans la conférence S, c'est Boston qui est déjà en demi-finale de conférence après avoir battu Miami 4 victoires à 1. Assez logique là, puisque Butler, le meilleur joueur de Miami, n'avait pas joué le premier tour. Cleveland, au moment où cette émission est enregistrée, mène pour l'instant 3 victoires à 2 face à Orlando. Indiana vient juste de se qualifier jeudi soir face aux Philadelphia Sixers dans cette série. Ah, pardon. Indiana s'est qualifié face à Milwaukee. Milwaukee aussi, qui n'avait pas la présence de deux de ses meilleurs joueurs, à savoir Giannis Antetokounmpo et. Comment il s'appelle? Damian Lillard, voilà. Donc 4 victoires à 2, logique là, avec très belle performance de Pascal Siakam en passant. Ouais, je pense quand même qu'il va avoir son fameux gros contrat qu'il recherche. Donc pour le prochain tour, non, on ne sait pas encore qui va jouer, mais il y a de fortes chances que pour le prochain tour, ce soit Boston contre soit Orlando, soit Cleveland, alors que pour la demi-finale de conférence, ce sera New York, les Knicks face à Indiana, puisque les Knicks ont éliminé Philadelphia, dans des circonstances aussi un peu étranges là. Bon, c'est vrai que Philadelphia, ils ont quand même résisté, mais c'est surtout le comportement de Joel Embiid qui a marqué. Vraiment, comportement très très négatif. Franchement, très déçu de voir ce comportement-là du côté d'Embiid. Beaucoup de vices, beaucoup de coups de nos adversaires, malgré ses propres problèmes de santé lui-même. C'était vraiment étrange de voir ça. Embiid, c'est quand même le MVP, donc le joueur par excellence de la NBA en titre, mais d'avoir affiché ce comportement-là. Et puis pour lui, je pense qu'il va commencer à se poser des questions sur son futur en tant que joueur à Philadelphia, les Sixers, puisque ça fait maintenant quoi, 6-7 ans qu'il est dans la ligue et il n'a jamais réussi à passer plus que le deuxième tour. En tout cas, je rappelle, dans l'Est, ce sera en demi-finale de conférence Boston face à soit Cleveland, soit Orlando, alors que de l'autre, ce sera les Knicks face à Indiana, les Pacers. Donc ça, c'est à l'Est. Dans la conférence Ouest, OKC a balayé les New Orleans, les Pelicans. Ils n'avaient pas la présence de Zion Williamson. Ce sera de l'apprentissage, tout simplement, pour l'équipe de la Nouvelle-Orléans. Alors que dans l'autre demi-finale, dans l'autre match du premier tour, c'est Clippers contre Dallas. Pour l'instant, c'est Dallas qui mène. Je pense que les Clippers peuvent revenir et qu'il y aura un match 7, mais le fait que Kawhi Leonard n'arrive pas et est toujours blessé, ça pèse clairement contre cette équipe-là. Dans l'autre série, c'est Minnesota qui avait réussi à balayer les Phoenix Suns, là, avec une énorme performance du jeune Anthony Edwards. On aura l'occasion de revenir sur ce joueur-là. Vraiment, il était sensationnel. Franchement, si vous voulez voir un joueur qui rappelle vraiment Michael Jordan, regardez Anthony Edwards. C'est vraiment fabuleux ce que ce jeune garçon arrive à faire. Et face à Phoenix, une équipe qui était soi-disant composée de superstars, avec un grand Big Three, avec Bradley Beal, avec Devin Booker, avec Kevin Durant, mais sans meneur de jeu. Écoutez, les bases, les fondamentaux du basket, c'est avoir un meneur de jeu, avoir des ailiers shooters et avoir un pivot. Mais du côté de Phoenix, ils avaient tout misé sur l'attaque uniquement. Oubliez la défense. Franchement, c'est. Moi, ma conception du basket, c'est pas les big three. Il faut développer des joueurs, il faut développer une alchimie et avec ça, essayer de créer quelque chose qui soit consistant. Mais il y a des équipes comme ça, et ça, c'est une des particularités des équipes dans lesquelles LeBron James toujours prend des raccourcis, toujours prend des joueurs stars ici à gauche et à droite, essayer d'avoir une équipe surpuissante comme ça. Et la mayonnaise ne prend pas. Et franchement, moi je trouve que c'est beau. C'est une bonne chose. C'est pas gentil de le dire. Mais les équipes qui prennent des raccourcis au lieu de former des joueurs, mais tout de suite assemblent des stars pour essayer de gagner tout de suite, j'aime pas ça. C'est pas ma philosophie comme ça du sport pro. Et c'est tant mieux. C'est une très belle chose pour moi. C'est très bien comme ça. Et j'espère, en tout cas, pour un jeune joueur comme Devin Booker, qu'il aura l'occasion, au moins encore une fois, de goûter au final NBA, car il le mérite. C'est un énorme joueur, hein. On rappelle qu'il avait scoré 71 points sur un match il n'y a pas si longtemps. Dans l'autre confrontation au premier tour à l'Ouest, c'était Denver, les Nuggets qui affrontaient les Lakers. Et là, ça aurait pu être un sweep, donc un match, une de. Un emballage, les Lakers sont 4 matchs secs. Ils ont réussi à gagner un match quand même, comme ça. Et puis la série a fini 4 à 1. Ben voilà quoi. On va pas encore revenir en détail là-dessus. La fameuse histoire comparaison entre le GOAT, entre Michael Jordan et LeBron James. Sur cette confrontation-là, on a vu que LeBron, ben, c'est tout simplement une machine à compiler des records, mais qui n'arrive pas à avoir ce qu'on appelle le clutch instinct. Il y avait un fameux match, je pense que c'est le match 4, là où il a l'occasion Il a la dernière balle, il reste 16 secondes, il a le panier grand ouvert. Donc il peut gérer la possession. Il préfère shooter à 3 points, il le manque. Et sur la séquence suivante, Denver Nuggets, le jeune Canadien Jamal Murray récupère le ballon, ligne de fond, il va à gauche, il va à droite, il fait un shoot, ce qu'on appelle un fadeaway, donc un shoot en reculant, en déséquilibre, et qui rentre, ça fait ficelle, comme on dit, donc ça touche ça rentre directement dans le panier sans faire de bruit, fin du match, quoi. Et sur le match 5, c'est exactement, quasiment la même séquence là. Il reprend le ballon, il y va, petit layup, au lieu de faire le layup, bon, il va plutôt vers un shoot comme ça en déséquilibre, mais pas, cette fois-ci pas côté droit, côté gauche, tout en élégance, hein, franchement sans forcer, et puis voilà, ils prennent l'avantage. Deux paniers clutch, quoi, en deux matchs, bravo, bravo jeune homme, bravo, 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 bravo. Franchement, gros respect. Et pour les Lakers, ben, il va falloir penser à reconstruire. Là, on annonce qu'ils voudraient que le fils de LeBron rejoigne l'équipe. Franchement, ce serait désastreux, quoi. Un joueur de plus de 40 ans que vous allez signer à plus de 160 millions, je ne comprends pas le sens de ça. Mais bon, c'est leur argent. Ils décident ce qu'ils veulent. Je rappelle que vous êtes sur Choc FM, la radio 100% Toronto, 100% francophone, dans l'émission Cédric du Sport. Donc, pour les demi-finales à l'Ouest, on aura OKC probablement contre soit Dallas, soit les Los Angeles Clippers. Et dans l'autre demi-finale à l'ouest, ce sera Denver les Nuggets face aux Minnesota, les Timberwolves. Un mot rapide sur les trophées NBA, comme ça rapidement, rapidement, rapidement. Steph Curry qui a été nommé joueur clutch de l'année, donc joueur le plus décisif. Meilleur sixième homme, c'est Naz Reid des Wolves. Joueur ayant le plus évolué, donc Most Improved Player, c'est Tyrese Maxey des Philadelphia Sixers. Le coach de l'année, c'est Mark Daigneault de Oklahoma City Thunder. Le manager de l'année, c'est Brad Stevens des Celtics. Et enfin, le coéquipier de l'année, c'est Mike Conley des Minnesota Timberwolves. Ah oui, un dernier trophée, c'est NBA All-Star Award. Donc, le joueur qui combat mieux sur le terrain, c'est Caruso des Chicago Bulls. On va vers la fin de cette émission, mais je vous l'avais promis comme ça pour finir cette émission. On va parler des Maple Leafs comme ça, puisque il y a le plateau des demi-finales en champion, pardon, dans la Ligue nationale de hockey. Donc à l'Ouest, c'est Colorado qui s'est qualifié pour le prochain tour, Edmonton aussi. À l'Est, c'est Philadelphia qui est qualifié pour le prochain tour. Ce sera la New York. Les Rangers contre la Caroline, alors que du côté des Maple Leafs, ils sont actuellement confrontés au Boston. Boston menait 3 victoires à 1, et puis les Leafs ont réussi deux performances très, très, très respectables, deux victoires consécutives. Et le match 6, ça va être ce samedi soir à Boston. Pardon, j'ai dit le match 6, le match 7. À noter que vraiment, c'est de façon héroïque, quoi. Les Maple Leafs, ils jouent sans Austin Matthews, qui a une mystérieuse blessure, on ne sait pas véritablement ce qu'il a. Toujours est-il qu'il faudra surveiller ça. Si les Leafs arrivent vraiment à faire cette remontée-là, ce sera l'un des plus grands exploits de l'histoire personnelle des Toronto Maple Leafs. Toujours est-il que on va conclure cette émission de Cédric du Sport avec un reportage sur l'un des joueurs que j'ai le plus apprécié, disons, durant la saison des Toronto Maple Leafs. Il s'appelle Simon Benoit. C'est cette interview-là avec son portrait que j'ai fait sur chocfm.ca que vous allez écouter pour conclure cette émission de Cédric du Sport. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 105.1, la radio 100% Toronto, 100% francophone.
Vous écoutez Cédric du Sport sur chocfm.
Bonjour, c'est Cédric Ingan pour Cédric du Sport, chronique spéciale Toronto Maple Leaf. Mais cette fois-ci, on va parler du seul joueur francophone de l'équipe. Il s'appelle Simon Benoit. C'est un joueur de 25 ans, 6 pieds 3, 203 livres, donc disons 1m91 et pas loin de 90 kilos, qui est né à Laval, au nord de Montréal, et comme j'ai dit, qui a 25 ans, qui est membre de l'effectif des Toronto Maple Leafs depuis un petit peu moins d'un an. En fait, il est arrivé au cours de l'automne 2023. Et pour moi, c'était une bonne surprise, une excellente surprise, même puisque depuis plusieurs années,
Il n'y avait pas eu de joueur francophone au sein des Toronto Maple Leafs. Dans mes souvenirs, le dernier s'appelait Frédéric Gauthier, qui était d'ailleurs un joueur que je connaissais depuis très longtemps, à l'époque où je vivais au Québec, puisqu'il était passé par l'Océanique de Rimouski, où je vivais. Donc, Simon Benoit, contrairement à Frédéric Gauthier, qui était un joueur offensif, c'est plutôt un joueur défensif. Et la réputation des Toronto Maple Leafs, c'est d'avoir des joueurs très talentueux offensivement, mais à l'opposé, ils ont rarement des défenseurs très fiables. Or, Simon Benoit, c'est le prototype du défenseur qu'on appelle en anglais un stay-at-home. Donc, il ne fait pas beaucoup de fantaisie sur le terrain, il est très solide sur sa ligne et il commet très peu d'erreurs. C'est ce qui fait que, bon, cette particularité de son jeu-là a fait que, au moment du repêchage, ce qu'on appelle la draft de la Ligue nationale de hockey il y a quelques années, il n'avait pas été pris directement par une équipe professionnelle, mais il était passé par l'équipe californienne des Anaheim Ducks. Mais depuis l'année dernière, les Toronto Maple Leafs l'ont pris grâce au nouveau manager-gérant Brad Living, et il a réussi une saison très intéressante, pas au niveau des stats, parce que ça reste, disons, raisonnable pour un défenseur. Un but, 4 passes en 64 matchs joués, avec 52 shoots, donc tir vers le goal, et un temps de glace, donc en moyenne de 17 minutes par match. Mais ce qui fait la particularité vraiment de Simon Benoit, c'est qu'il est vraiment, vraiment très solide. C'est quelqu'un sur qui, on peut dire, les Toronto Maple Leafs peuvent vraiment compter. Et ça n'a pas toujours été le cas au cours des dernières années. L'un des meilleurs défenseurs de l'équipe qui s'appelle Morgan Riley a par contre la tendance à être beaucoup plus penché vers l'attaque que vers la défense. C'est ce qui fait que, au moment où, la dernière fois où j'ai parlé à Simon Benoit, c'est-à-dire samedi, pas de la semaine dernière, mais d'il y a la semaine précédente, lors du dernier match en saison régulière des Toronto Maple Leafs, ils étaient sur une série de 3 défaites consécutives avec en moyenne 4 à 5 buts encaissés. Et vous allez entendre au cours de l'interview qu'il m'a accordé gentiment dans quelques instants là, lui, contrairement au reste de l'équipe, il est vraiment orienté vers la victoire plutôt que vers les stats. Donc il n'était pas du tout satisfait du fait que lors de ce match-là, ils avaient réussi une remontée de 3 buts, mais qu'à la fin, ils avaient perdu. Et la bonne nouvelle en plus, c'est que depuis qu'ils ont, compris au sein du management des Toronto Maple Leafs que c'est un défenseur vraiment solide, ben Simon Benoit, il avait commencé la saison en tant que remplaçant. Il avait même un contrat qui faisait qu'il était censé plutôt jouer en Ligue mineure avec les Marlies plutôt qu'avec l'équipe élite des Toronto Maple Leafs. Et progressivement, il a prouvé qu'il méritait sa place. C'est ce qui fait que depuis presque un mois, il lui a accordé une extension de 3 ans. Et d'ailleurs, dans l'interview, je l'ai félicité pour cela. Ça reste que, bon, il n'est pas le mieux payé de l'équipe, c'est certain, mais c'est une belle découverte. Et pour ceux qui suivent, ceux et celles qui suivent les Toronto Maple Leafs, vous verrez que c'est l'un des joueurs préférés justement parce qu'il est singulier dans son genre. C'est quelqu'un qui est vraiment discret, qui n'est pas hyper expansif, mais lorsqu'il est sur la glace, c'est un vrai guerrier. Et c'est pour ça que dans cette chronique, je l'ai intitulé « Un gladiateur au milieu des artistes ». Donc, c'est l'interview de Simon Benoit que vous allez écouter au cours des prochains instants. Dans les prochains jours, je ferai une autre chronique pour parler des chances des Toronto Maple Leafs durant les playoffs qui ont déjà commencé, en espérant qu'ils ne soient pas éliminés, car, je le répète souvent dans cette règle du sport, Toronto, c'est la ville des Toronto Maple Leafs. On se retrouve samedi à 11h pour Cédric du Sport.
Cédric pour Choc FM avec Simon Bonnet de Toronto Maple Leafs. Bon, Simon, tout le monde s'attendait à une nuit historique, mais il n'y a pas eu le happy ending que tout le monde attendait.
On est focusé sur la victoire. C'est sûr qu'on sait qu'il s'essaie pour. Je souhaite qu'il va y arriver d'ici les 2 dernières années. Mais pour l'instant, je pense qu'on se focus sur la. En tant qu'équipe, on se focus sur la juste se concentrer pour les séries.
Ça. Mais à ce moment de la saison-là, vous êtes déjà qualifié pour les séries. Vous savez à peu près contre qui vous allez jouer. Quelles sont maintenant les priorités pour l'équipe?
Je pense qu'on comme je le disais, c'est de se mettre prêt, travailler sur les détails, s'assurer que tout le monde est sur la même page. comme tu dis, on sait qu'on s'en va ici, on sait pas à peu près quand on va jouer. Encore là, je pense que le focus est sur nous. On sent sur notre game collective. Et puis de là, on va juste rentrer dans la série en bonne forme.
Et pour vous, la première fois que je vous ai vu, c'était en début de saison, les circonstances étaient vraiment différentes. Et puis pour vous, êtes quand même un peu l'histoire magique dans la saison des Maple Leafs. Est-ce que vous pouvez nous relater un peu comment tout ça s'est passé depuis le début, quand vous étiez comme un remplaçant et puis vous êtes devenu l'un des chouchous de l'équipe et même des fans, je peux vous dire ça. On parle beaucoup de vous en ligne.
Non, c'est sûr qu'au niveau personnel, c'est gratifiant. C'est sûr que j'ai travaillé fort pour prendre ce que je suis. La reconnaissance des fans, c'est sûr, c'était sans choyer sur ce côté-là. T'sais, je peux pas. Je fais juste ma job. Pour moi, je me concentre sur ce que je peux faire sur la glace pour aider l'équipe. Puis si les fans aiment ce que je fais, ben, je suis très gratifiant pour ça.
Et en passant, félicitations pour l'extension. Maintenant, puisqu'il s'agit de préparer les séries, qu'est-ce que vous pensez être les premiers de votre carrière?
J'ai joué des séries éliminatoires dans la Ligue américaine. Mon niveau de la Ligue nationale, oui, ça va être mes premières séries.
Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'en termes de préparation, est-ce qu'en termes mental, est-ce que vous faites quelque chose de différent?
Non, je pense que mon headspace est à bonne place. On sait que les séries, c'est un hockey très difficile, un hockey très physique, un hockey très agressif. Je pense que ça tombe directement dans mon type de jeu. Et pour moi, je pense que je vais juste donner un cran de plus. On sait que le cran augmente avant les séries. Puis pour moi, c'est juste de step up et puis de jouer ma game.
Maintenant, dernière question. Qu'est-ce que ça fait d'être avec un joueur comme Austin Matthews qui réussit une saison historique?
Non, c'est sûr que c'est très impressionnant que Austin travaille très 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 fort. Il est toujours un des premiers sur la patinoire, en train de travailler sa shot, ses petits détails, ses mains. Donc je ne suis pas surpris de voir tout ce qui est rendu en ce moment. Mais écoute, c'est sûr que c'est très exceptionnel de côtoyer ça chaque jour. Et puis je suis juste heureux pour lui.
Voilà. Et bonne chance pour les séries.
Merci beaucoup. Okay.